Bonjour et merci de vous joindre à moi aujourd'hui. J'ai un message très intéressant à partager avec vous. Il s'agit de l'histoire d'un bon roi qui avait une très mauvaise habitude. Il est intéressant de noter que c'est la même habitude qu'ont aujourd'hui de très bonnes personnes. Je pense que vous allez trouver cela édifiant, provoquant peut-être, et je sais que vous allez trouver cela utile. Si vous avez une Bible, prenez-la. Asseyons-nous et plongeons-nous ensemble dans la parole de Dieu.
Bonjour, je suis Bélez Conley. Dans la vie, nous sommes tous confrontés à l'incertitude, qu'il s'agisse de problèmes financiers, de crises relationnelles, d'un problème de santé ou simplement de la découverte de votre raison d'être. Une chose est sûre, Dieu vous voit, il vous aime, et peu importe ce à quoi vous faites face, il a les réponses.
Nous entamons une série consacrée aux prophètes, aux rois et aux reines. Nous examinerons les leçons que nous pouvons tirer des personnes appartenant à ces catégories et de leur histoire. Prions ensemble, si vous le voulez bien. Père Céleste, nous apaisons notre cœur en cet instant et nous choisissons de rester paisibles et d'écouter. Nous te remercions pour ta main surnaturelle qui est à l'œuvre aujourd'hui dans ce bâtiment, sur ce campus et dans le cœur et la vie de chaque personne qui regarde et écoute. Amen. Nous allons entrer dans une période intéressante de l'histoire d'Israël. La nation a été divisée, 10 tribus sont parties. Elles se sont séparées des tribus de Benjamin et de Juda et ont établi une nouvelle capitale dans le nord, à Samarie. Elles sont connues sous le nom d'Israël. Pendant 200 ans, elles ont eu 19 rois dans le nord et aucun de ces rois n'a jamais aimé ou servi Dieu. Chacun d'entre eux était mauvais. Dans le sud, il y a un autre royaume composé de 2 autres tribus, Benjamin et Juda, avec une capitale à Jérusalem. Le royaume du sud a également eu 19 rois, mais sur une période un peu plus longue, car les Assyriens ont fini par conquérir le royaume du nord et le peuple a été emmené captif en Assyrie. La nation de Juda a tenu un peu plus longtemps, mais elle a fini par être emmenée en captivité à Babylone. Mais sur les 19 rois du royaume du sud, 8 ont servi Dieu. 8 d'entre eux aimaient Dieu. À cette époque, le roi du Nord était tristement célèbre. Vous avez certainement entendu son nom, Achab. Il était marié à une femme nommée Jézabel, et ils étaient d'une méchanceté abominable. Pour eux, le mal était bien et le bien était mal. Ils haïssaient Dieu. Au sud, leur homologue à cette époque était un homme nommé Josaphat. C'était le roi de Juda qui régnait au sud à Jérusalem. Voici un petit aperçu du type de roi qu'il était en 2 Chroniques 17, 3 à 6. L'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il marcha sur la voie que suivait son ancêtre David au début et qu'il ne consulta pas les Baals. C'est en effet au Dieu de son ancêtre qui lui recourt, et il suivit ses commandements sans imiter ce que faisait Israël. L'Éternel affermit la royauté entre les mains de Josaphat. Tout Juda lui payait un tribut, et il eut des richesses et de la gloire en abondance. Son cœur s'engagea toujours plus dans les voies de l'Éternel, et il fit encore disparaître de Juda les hauts lieux et les poteaux sacrés. Si nous poursuivons notre lecture, nous découvrons que Josaphat aimait la parole de Dieu. Il aimait aussi la justice. C'était un bon roi avec une mauvaise habitude. C'est ce dont nous allons parler. 2 Chroniques 18:1. Josaphat eut des richesses et de la gloire en abondance. Et il s'allia par mariage avec Achab. Il a pris la fille d'Achab et de Jézabel, Athalie, et a fait d'elle la femme de son fils Joram. Elle était encore pire que sa mère, aussi impossible que cela puisse paraître. Athalie finira par assassiner tous les petits-enfants de Josaphat. Elle plongera la nation de Juda dans une longue période d'oppression, de tyrannie et d'idolâtrie. Aucune preuve n'indique que Josaphat ait prié au sujet de cette alliance de quelque manière que ce soit. Il avait tendance à conclure des alliances impies et à interroger Dieu à leur sujet une fois qu'il s'était engagé. Il a fait cela pratiquement tout au long de sa vie. Il se liait, s'associait et s'engageait avec les mauvaises personnes et ne consultait Dieu qu'une fois qu'il était trop tard. J'ai un ami qui, à plusieurs reprises, a engagé des personnes clés pour occuper des postes très importants dans son église. Il l'a fait à de nombreuses reprises sans attendre Dieu, ni demander d'abord l'avis d'amis de confiance. Inévitablement, les personnes qu'il a nommées à ces postes clés ont divisé l'Église et causé des problèmes incalculables, encore et encore. Il n'y a pas si longtemps, il s'est confié à moi et à quelques amis en disant « Je n'ai aucun discernement en ce qui concerne les gens ». En était-il de même pour Josaphat? Était-ce simplement parce qu'il manquait de discernement? Ou bien était-ce par désir d'acquérir plus de richesses et plus de territoire? Pensait-il qu'il allait changer ses gens après s'être allié à eux? Qu'il allait d'une manière ou d'une autre les influencer et les changer? Ou peut-être voulait-il simplement être apprécié et considéré comme bienveillant? Nous ne le savons pas, mais c'était une habitude qui a persisté pendant la plus grande partie de sa vie. Poursuivons en 2 Chroniques 18, 2 et 3. Au bout de quelques années, il descendit trouver Achab à Samarie. Ce dernier tua pour lui et pour la troupe qui l'accompagnait un grand nombre de brebis et de bœufs, et il le poussa à monter à Ramoth en Galaad. Achab, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi de Juda, « Veux-tu venir avec moi à Ramoth en Galaad ?» Josaphat lui répondit, « Toi et moi, ton peuple et le mien, il n'y aura aucune différence, et nous irons l'attaquer avec toi. » Attends un peu, Josaphat, il n'y aura aucune différence? C'est faux! Achab est Dieu, tu aimes Dieu. Achab est mauvais, tu es juste. Achab est trompeur, tu es honnête et tu aimes la justice. Achab est un idolâtre, tu sers le seul vrai Dieu. Il n'y aura aucune différence, que dis-tu? Nous irons l'attaquer avec toi. Lisons ensuite le verset 4. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte donc maintenant la parole de l'Éternel. » N'était-ce pas la première chose à faire? N'aurais-tu pas dû demander à Dieu ce qu'il en était avant de promettre et de prendre un engagement? Tu t'es engagé, tu es impliqué, et maintenant tu vas voir ce que Dieu a à dire à ce sujet? Tu te lies à un homme impie, puis seulement tu décides de prier? Achab fait venir 400 faux prophètes. Ce sont les prophètes qui prophétisent pour lui et Jézabel. Achab et Josaphat étaient assis sur leur trône et siégeaient sur la place à l'entrée de Samarie, et ces 400 hommes prophétisaient. Ils disaient, « Montez à Ramoth en Galaad, Dieu a livré les Syriens entre vos mains, allez-y, l'Éternel dit d'y aller !» Josaphat est mal à l'aise. Il dit, « N'y a-t-il pas d'autres prophètes ?» Achab répond, « Il en reste un, Miché. Mais je le déteste parce qu'il ne prophétise jamais rien de bon sur moi. » Josaphat dit, « Tu ne devrais pas dire cela. Fais-le venir. » Le messager qui va chercher Miché dit, « Écoute, les 400 autres sont unanimes. Veille à dire la même chose. » Miché a certainement parlé de manière très sarcastique quand il a dit, « Allez-y, Dieu va livrer les Syriens. » Car Achab dit, « Arrête ça et dis-moi la vérité. » Il lui répond, « D'accord, tu vas mourir. Tu ne reviendras pas vivant de cette bataille. J'ai vu Israël dispersé comme des brebis. Ce sera un désastre. » Ils y sont tout de même allés. Tout ce que Miché avait dit s'est réalisé. Josaphat s'en est sorti de justesse. Il crie à Dieu alors qu'il est poursuivi par les chars ennemis, et Dieu intervient et le sauve. Mais plusieurs de ses hommes sont tués. Il s'en tire véritablement de justesse. C'était un désastre absolu. Nous arrivons ensuite à 2 Chroniques 19, 1 à 3. Quant à Josaphat, le roi de Juda, il revint en paix chez lui à Jérusalem. Le voyant, Jéhu, le fils de Hanani, alla à la rencontre du roi Josaphat et lui dit : « Doit-on venir en aide aux méchants et aimes-tu ceux qui détestent l'Éternel ? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Cependant, il a trouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays les poteaux sacrés et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. Doit-on venir en aide aux méchants et aimes-tu ceux qui détestent l'Éternel ? Jézabel et Achab n'étaient pas seulement neutres. Ils haïssaient Dieu. Ils n'étaient pas seulement trompés. Ils haïssaient Dieu. Ils haïssaient la parole de Dieu. Ils haïssaient les choses de Dieu. Ils haïssaient le peuple de Dieu. Et ils haïssaient les prophètes de Dieu. Ils s'étaient mis en tête de s'opposer complètement à Dieu. Ils étaient incorrigiblement mauvais, et le prophète demande : faut-il aider ceux qui sont littéralement les ennemis de Dieu, ceux qui haïssent Dieu ? Malheureusement pour Josaphat, lorsque vous devenez l'allié de quelqu'un qui hait Dieu, une partie de ce qui est sur eux va se déverser sur vous. Jéhu dit : la colère de Dieu est sur toi parce que la colère de Dieu est déjà sur ces gens-là. Si tu fais ce genre d'alliance, tu partageras dans une certaine mesure une partie de cette colère. Mais il y a de bonnes choses en toi, Josaphat. Celui-ci, et c'est tout à son honneur, continue à servir Dieu et à faire du bien à Juda. C'est un bon roi. Quelques années plus tard, Joram, l'un des fils d'Akab, est devenu roi dans le nord. En fait, il y a eu une corrégence pendant un certain temps. Joram, le fils d'Akab, règne à ce moment-là, et il est méchant, tout comme son père et sa mère. Il est idolâtre comme eux. Nous reprenons le récit, cette fois-ci en 2 Rois 3, 6 et 7. Le roi Joram sortit alors de Samarie et passa en revue toute l'armée d'Israël. Puis il se mit en marche et fit dire à Josaphat, le roi de Juda : le roi de Moab s'est révolté contre moi. Veux-tu venir avec moi pour combattre Moab ? Josaphat répondit : je vais monter avec toi, toi et moi, ton peuple et le mien, tes chevaux et les miens, il n'y aura aucune différence. Josaphat, il n'y aura aucune différence ? C'est faux, il est comme ses parents, il est mauvais, il ne sert pas Dieu, il n'aime pas Dieu, tu n'es pas comme lui. Mais Josaphat se précipite : je vais monter avec toi. Il conclut cette alliance et le roi d'Édom se joint également à eux. Trois rois, le roi d'Israël au nord, le roi de Juda au sud, Josaphat et le roi d'Édom. Nous lisons ensuite ce que demande Josaphat en 2 Rois 3, 8 à 10. Il ajouta : par quel chemin allons-nous monter ? Joram, le roi d'Israël, dit : par le désert d'Édom. Les rois d'Israël, de Juda et d'Édom partirent. Après 7 jours de marche, ils manquèrent d'eau pour l'armée et pour les bêtes de somme qui la suivaient. Alors le roi d'Israël dit : quel malheur ! L'Éternel a appelé les trois rois que nous sommes pour les livrer entre les mains des Moabites. Ils ont décidé d'y aller. Dieu ne les avait pas envoyés. Ils ont choisi le chemin détourné. Un autre chemin avait de l'eau, mais ils ont décidé d'aller ailleurs. Il n'y a pas d'eau pendant 7 jours et ils rejettent la faute sur Dieu. Il dit : l'Éternel nous a livrés ? N'est-ce pas typique ? Les gens font des choix qui ont des conséquences, puis ils rejettent la faute sur Dieu. Pourquoi le Seigneur permet-il cela ? Parce que vous êtes stupides. C'est le cas ici. C'est le Seigneur. Non, le Seigneur n'a pas permis cela. C'est toi qui as permis cela. Ce sont tes propres choix. Nous arrivons ensuite au verset 11. « Mais Josaphat demanda : n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel pour que nous puissions le consulter ? » L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit : « Il y a ici Élisée, le fils de Shaphat, qui était l'assistant d'Élie. » N'est-ce pas un peu tard, Josaphat ? N'aurais-tu pas dû consulter la parole du Seigneur avant de t'associer à cet homme mauvais ? N'aurais-tu pas dû interroger Dieu avant de t'engager dans cette alliance? N'aurais-tu pas dû interroger Dieu avant d'avoir des ennuis? Tu es sur le point de mourir, tous les animaux sont en train de mourir et tu vas perdre toute ton armée. C'est maintenant que tu décides de prier? Dieu merci, c'est mieux que de ne pas prier du tout. Mais Josaphat, tu aurais dû faire cela d'abord. Versets 12 et 13. Josaphat dit, « La parole de l'Éternel est avec lui. » Le roi d'Israël, Josaphat et le roi d'Édom descendirent alors vers Élisée. Élisée dit au roi d'Israël, « Que me veux-tu? Va trouver les prophètes de ton père et ceux de ta mère. » Le roi d'Israël lui dit, « Non, car c'est l'Éternel qui a appelé les trois rois que nous sommes pour les livrer entre les mains des Moabites. » Il rejette toujours la faute sur Dieu. Il demeure complètement fataliste. Nous arrivons au verset 14. Élisée dit, « L'Éternel, le maître de l'univers, dont je suis le serviteur, est vivant. Sans l'estime que j'ai pour Josaphat, le roi de Juda, je ne ferai aucune attention à toi et je ne te regarderai même pas. » Nous y reviendrons. À partir de là, Élisée appelle un musicien qui commence à jouer. La main de l'Éternel se pose sur Élisée et il prophétise. Il leur dit ce qu'il faut faire. C'était fou. Il dit « Creusez des fosses ». Il n'y a ni pluie ni eau, mais Dieu va faire venir de l'eau de façon surnaturelle. C'est absolument ridicule. Mon ami, il faut parfois faire ce qui est ridicule pour faire l'expérience du miraculeux. Vous devez obéir à Dieu, que cela ait du sens ou non. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont creusé des fosses et Dieu a fait venir de l'eau de façon surnaturelle. Tous les animaux ont étanché leur soif, tous les soldats ont été rafraîchis et renouvelés. Le matin, le soleil s'est levé et le ciel était rouge. Le roi de Moab et son armée ont regardé le champ de bataille et ils ont vu le soleil rouge du matin qui brillait sur l'eau et ils ont pensé que c'était du sang. Ces trois rois et leur armée se sont retournés les uns contre les autres et se sont entretués. Allons chercher le butin! Il fait ainsi tomber son armée dans un piège fatal et les Moabites sont massacrés. Cependant, l'alliance de Josaphat avec un homme mauvais a failli lui coûter la vie et a failli coûter la vie à tous ses hommes. Tous nos choix ont des conséquences. Personne ne vit ni ne meurt pour lui-même. Même en faisant quelque chose en cachette, cela affecte toujours quelqu'un d'autre. Il y a toujours des répercussions. Cela affecte toujours d'autres personnes. Remercions Dieu pour sa miséricorde. Je ressens un besoin profond de vous parler de quelque chose en particulier. Revenons au verset 14. Élisée a dit, « Sans l'estime que j'ai pour Josaphat, le roi de Juda, je ne ferai aucune attention à toi et je ne te regarderai même pas. » Nous devons considérer l'influence d'une personne pieuse. L'influence qu'une seule personne pieuse peut avoir. Josaphat avait des défauts, certes, mais il aimait le Seigneur. Ces deux autres rois et leur armée ont été délivrés parce que Josaphat était là. Ils ont bénéficié de la faveur de Dieu grâce à la présence d'un homme pieux. Ne sous-estimez pas l'influence et l'impact que peut avoir un seul homme pieux ou une seule femme pieuse. En Actes 16, Paul et Silas sont en prison dans la ville de Philippe. À minuit, alors qu'ils sont enchaînés à l'intérieur de la prison, ils se mettent à prier et à adorer. Ils chantent des louanges quand soudain il y a un grand tremblement de terre. Les Écritures disent que toutes les portes de la prison se sont ouvertes et que toutes les chaînes sont tombées. Cela n'a pas seulement touché Paul. Cela n'a pas seulement touché Paul et Silas. Les portes de toutes les cellules se sont ouvertes. Tous les prisonniers ont été libérés de leurs chaînes. L'influence d'un seul homme pieux. En Actes 27, 276 personnes sont sur un bateau au milieu d'une grande tempête. Ils ont perdu tout espoir d'être sauvés. Ils savaient qu'ils allaient mourir. Mais un ange est apparu à Paul dans la nuit et lui a dit, « Paul, n'aie pas peur, Dieu t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. » Ils devaient être très heureux que Paul soit sur ce bateau. 276 personnes ont été sauvées d'une mort certaine parce qu'un seul homme pieux se trouvait parmi elles. Quelle joie! Dans les années 70, il y avait un prédicateur de rue que j'admirais beaucoup en raison de la simplicité de son message. Il parlait de Jésus en toute simplicité. Grâce à son courage, il s'est rendu dans certains des endroits les plus dangereux du monde. Il a voyagé à l'étranger et s'est aussi rendu dans des endroits hostiles de notre propre pays où il proclamait simplement le message de l'amour de Dieu et il obtenait des résultats étonnants. Un acteur hollywoodien, très connu, a été sauvé. C'était à la fin des années 70. Cet acteur et ce prédicateur de rue sont devenus inséparables. Je me souviens avoir regardé une entrevue dans laquelle on lui a demandé s'il n'avait pas peur de mourir. Il a répondu, « Quand j'ai été sauvé, Dieu m'a dit de me joindre à cet homme pour le soutenir. Chaque fois que je suis à ses côtés, peu importe où je me trouve, j'ai l'impression d'être dans l'endroit le plus sûr de la planète Terre. » Je n'ai jamais oublié cela. Il avait compris quelque chose de très important. Pensez à Joseph. Il est vendu aux enchères en Égypte. Un homme nommé Potiphar l'achète et l'emmène chez lui. Son entreprise a été bénie parce que Joseph était là. Son foyer a été béni parce que Joseph était là. Son bétail et ses troupeaux ont été bénis parce que Joseph était là. Ses serviteurs ont été bénis parce que Joseph était là. Grâce à Joseph, l'influence d'un homme pieux a apporté la bénédiction de Dieu sur la maison. Ce qui était sur Joseph s'est répercuté sur Potiphar et sur toute sa famille. Je crois que les endroits où j'ai travaillé en tant que chrétien ont été bénis parce que j'y suis allé. Tout d'abord, parce que je me suis toujours efforcé d'avoir une bonne éthique de travail. Je suis toujours le premier à arriver et le dernier à partir. J'ai toujours eu une bonne attitude envers mes employeurs. Au-delà de ça, je crois que la bénédiction de Dieu est venue sur eux grâce à celui que j'aime et à celui que je sers. Je me souviens qu'il y a de nombreuses années, j'ai postulé pour un emploi de cuisinier dans un restaurant. Le patron était réticent et je lui ai dit, « Si vous m'embauchez, je serai le meilleur employé que vous ayez jamais eu. » Il m'a ri au nez. Je lui ai dit que j'étais sérieux. Il m'a dit, « D'accord, je vous donne une chance. Je suis réticent, mais je vous engage. » J'ai travaillé là pendant un certain temps. Et finalement, j'ai donné mon préavis car j'allais retourner en Californie. L'homme qui m'avait embauché, le patron du restaurant, m'appelle dans son bureau et me dit « Vous êtes le meilleur employé que j'ai jamais eu. » Il a ajouté, bien qu'il n'était pas chrétien, bien qu'il n'était pas croyant, il a ajouté « J'ai l'impression que cet endroit a été béni parce que vous étiez là. » Mon ami, c'est parce que ce qu'il y a dans notre vie peut se répercuter sur la vie des autres. Je reconnais certaines choses dans ma vie. L'une d'entre elles est la grâce que j'ai de pouvoir dormir. Je suis de tout cœur avec ceux qui ne dorment pas bien. Je suis certain que des personnes ici présentes ou des personnes qui m'écoutent ne dorment pas bien. J'ai la chance de bien dormir et ma famille aussi. Il y a une sorte d'auvent de bénédiction sur la maison des Conley. Un autre ami à moi ne dort pas bien. Il ne dort pas que de 2 ou 3 heures, mais s'il arrive à dormir 5 heures, c'est déjà bien. En général, il n'arrive pas à dormir autant. Il se réveille en pensant à plein de choses et il n'arrive pas à se rendormir. Nous en avons parlé ensemble. Il est venu dormir chez moi plusieurs fois. La première fois, je lui ai dit, « Tu vas bien dormir chez moi. » Vraiment ? Oh oui, viens et tu verras. Il y a quelque chose sur ma maison, ici tu dormiras. Le lendemain matin, à 9 h, il dormait encore. Tu as bien dormi ? Super. Il appelle ça l'onction Rip Van Winkle. Lorsque Jésus a envoyé les 12 et ensuite les 72 de par deux, il leur a tous dit, en entrant dans la maison, saluez ses habitants et, s'ils en sont dignes, s'ils vous accueillent, que votre paix vienne sur eux. Ce qui est sur vous se répercute sur eux. Ce qui est dans votre vie se répercutera sur eux. S'ils ne vous accueillent pas, votre paix vous reviendra. Il est vrai que nos relations sont importantes. Il faut choisir ses amis avec soin, car nous devenons ce qu'ils sont. Il faut aussi choisir les bons compagnons et avoir le bon type de relation, car ce qu'ils sont déteint toujours sur nous et nous affecte toujours. D'ailleurs, je me suis fait une réflexion. Je pense que les parents de jeunes enfants doivent faire attention aux personnes qu'ils fréquentent. Vous devez savoir où ils passent la nuit et vous devez connaître leurs parents et leur famille. C'est un sujet important. Je dirais qu'au milieu de tout cela, et ce message n'est pas encore terminé, je voudrais me concentrer sur le fait d'être le genre de personne que les autres veulent fréquenter, parce que les bonnes choses dans ma vie et les bénédictions qui sont sur moi se répercuteront sur eux. Essayez d'être le genre de personne que les autres veulent côtoyer, parce que vous avez une bonne influence. Essayez toujours de fréquenter des personnes qui vont vous faire du bien ou des personnes que vous pouvez aider au nom de Jésus. Nous connaissons tous des moments difficiles dans la vie. Les tempêtes de la vie peuvent toucher tout le monde. Mais peu importe ce que vous traversez, Dieu a des réponses pour vous. Il connaît un chemin que vous pouvez suivre. J'en ai moi-même fait l'expérience. Dieu m'a libéré du désespoir le plus profond et de la toxicomanie. Je suis convaincu qu'il peut aussi vous aider. Je vous raconte mon histoire dans le mini-livre « Il y a toujours de l'espoir ».
Téléchargez gratuitement le livre au format PDF. Il vous suffit de vous rendre sur belez-conley.fr/espoir pour découvrir comment Dieu vous offre à vous aussi un nouvel espoir. Avez-vous des questions sur l'émission ou est-ce que quelque chose vous préoccupe pour lequel nous pouvons prier? Alors écrivez-nous, notre équipe apprécierait avoir de vos nouvelles.